le soir en descendant sur la rue Saint-Laurent, sans être malin comme des gandins, Jean-Luc le petit trottin. Elles vont deux par deux, se promenant cœur joyeux, nous faisons de l'œil et bon accueil, du boulevard c'est l'orgueil. Et bien tranquillement, elles vont de pas charmants, légères et câlines, l'été sur leur mousseline, c'est la joie du boulevard, elles nous rendent ricolards, nous faisons bonne mine et nous les suivons sans retard. Qu'ils sont gentils, ces frères minois, on les aborde au tapinois, en leur jetant un regard sournois, en leur jetant un regard sournois. On les prend par le bras, en marchant à petits pas, sur le trottoir, il faut nous voir, se balader ensemble pour fêter, car Montréal, ville idéale, c'est si charmant qu'on se promène tout le temps. Et bras sous bras dessous, nous parlons comme des fous, la bouche en cœur est pleine d'ardeur, nous voguons au petit bonheur. Et dans les restaurants, nous entrons le cœur content, sans hésiter nous amuser, en même temps se régaler. Après elles disent, veux-tu nous amener au vu? Je te réponds, mes petites chattes, votre désir me flatte, je veux après souper vous amener visiter, pour dilater la rate, toutes les salles de vues animées. Qu'ils sont gentils, ces frères minois, on les aborde au tapinois, en leur jetant un regard sournois, en leur jetant un regard sournois. On les prend par le bras, en marchant à petits pas, sur le trottoir, il faut nous voir, se balader ensemble pour fêter, car Montréal, ville idéale, c'est si charmant qu'on se promène tout le temps. Sur le boulevard un soir, le cœur rempli d'espoir, à eux tendront, j'ai dit pardon, et tu n'y n'es tout ni non. La petite me répondit, je te le dirai hardi, et beau galant peut-être quand les poules auront des dents. Malgré mon embarras, je la suivis pas à pas, jusqu'à sa petite chambrette, rue Sainte-Élisabeth. Puis je lui dis bonsoir, sans rancune au revoir, je reviendrai ma poulette, car j'adore tes jolis yeux noirs. 2 mois après, mes bons amis, l'hymen nous avait réunis. J'étais devenu, devenu le mari, j'étais devenu le mari. Denis est trop beau Dieu, qui me rend même bien heureux. Faites comme moi, le cœur plein d'émoi, en descendant sur la rue Saint-Laurent. Sans trop chercher, vous trouverez des cœurs charmants qui se promènent tout le temps.
Vous êtes au 902 Saint-Laurent, la rue Saint-Antoine, un texte de Bernard Vallée. Avant l'urbanisation du secteur, le point où se rencontrent aujourd'hui le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Antoine, dénommée rue Craig jusqu'en 1976, se situait au pied des anciennes fortifications le long desquelles serpentait la petite rivière ou rivière Saint-Martin. Au début du 19e siècle, suite à la démolition des murs d'enceinte de la ville, on trace la rue Craig, on canalise la rivière qui, devenue un véritable égout à ciel ouvert, est finalement enfouie dans un tunnel souterrain. Le faubourg Saint-Laurent, qui se développe au nord de la rue Craig, connaît de tragiques bouleversements, dont le grand incendie de 1852 qui ravage une partie de la ville et met à la rue de nombreux sinistrés. On voit ensuite s'installer de grands magasins sur la rue Craig. À la fin du 19e, ils disparaissent à mesure que le centre du commerce de détail se déplace dans le nouveau centre-ville, le long de la rue Sainte-Catherine. Plus près de nous, Au début des années 70, la tranchée bruyante et puante de l'autoroute Ville-Marie éventre l'ancien faubourg et isole le vieux Montréal du reste de la ville. Rescapé des avanies d'aménagements consternants, le vieil édifice d'angle, longtemps abandonné et récemment rénové avec respect, reprend du service en offrant un toit de qualité aux sans-logis. Vous êtes au 1195 Saint-Laurent, le Monument national, un texte de Pierre Anctil. Lorsqu'il est inauguré par la Société Saint-Jean-Baptiste le 25 mars 1893, le Monument national est conçu comme un symbole vivant du dynamisme de la présence canadienne-française sur le boulevard Saint-Laurent et dans le quartier des spectacles. Quelques mois plus tard, quand l'aménagement intérieur est enfin terminé, l'édifice compte même une salle de 1500 places, jugée immense à l'époque et tous les derniers développements en matière de technologie électrique et d'acoustique. Emportés par un enthousiasme débordant, les dirigeants de la Société Saint-Jean-Baptiste proposent même l'ouverture en face du Monument national d'un boulevard de l'Opéra qui aurait relié la Main à la rue Saint-Denis et remplacé le marché Saint-Laurent qui s'y trouvait déjà. Un autre sort attendait toutefois le Monument national, qui devient plutôt, dès 1897, le foyer du théâtre yiddish et de l'opéra chinois à Montréal. Bientôt, des foules venues de toutes parts se pressent aussi à l'intérieur de ses murs pour assister à la naissance d'un nouveau média artistique né avec le siècle, le cinéma. Vous êtes au 3495 Saint-Laurent, en haut de la côte à Baron, un texte de Bernard Vallée. Il est difficile d'imaginer le carrefour Saint-Laurent et Sherbrooke au début du 19e siècle, alors qu'on était encore à la campagne. À l'emplacement de la désolante station-service d'aujourd'hui, se dressait depuis 1818 l'opulente villa de l'armateur Thomas Torrance, qui devint ensuite la propriété du brasseur John Molson et de sa famille jusqu'en 1910. Transformée en garage dans les années 30, la villa fut ensuite détruite. D'autres riches Montréalais étalaient leur somptueuse villa entourée de vastes jardins sur cette côte à Baron qui dominait la vieille ville et ses faubourgs. La villa Notman est un des derniers de ces édifices remarquables. Construite en 1844 à la demande du juge William Collis Meredith, la demeure est devenue la propriété du célèbre photographe montréalais William Notman en 1876. En 1891, elle fut achetée par George Drummond pour y loger le St. Margaret's Home for the Incurable et a été sauvée par l'action des citoyens du secteur qui se sont opposés récemment à sa dénaturation par un projet immobilier sans qualité. Au début du 20e siècle, la construction de la synagogue Charity Field sur la rue Milton marqua les débuts de la migration de la communauté juive des vieux quartiers vers les faubourgs plus au nord, autour des manufactures, des ateliers et des échoppes qui s'établissaient le long de Saint-Laurent, devenu boulevard en 1905. Dans les années 50, la synagogue est devenue théâtre yiddish, le Melody Theater, puis boîte à chansons, le Chat noir de Claude Léveillé, et enfin, des années 60 au début des années 90, cinéma de répertoire avec l'Élysée et le cinéma festival. Après avoir accueilli le Business, la première boîte branchée du boulevard, l'usine Reitmans devenait le siège d'une entreprise pionnière du multimédia, Softimage. Vous êtes au 3590 Saint-Laurent, Les Jardins Guilbeault, un texte de Bernard Vallée. Joseph-Édouard Guilbeault installa d'abord un commerce et un jardin de plantes rares où l'on pouvait venir se promener gratuitement et participer à des fêtes avec illuminations, feux d'artifice, concerts de musique militaire et acrobates. Ce premier jardin de plaisir dura de 1831 à 1838. Entre 1852 et 1862, l'homme d'affaires installe un nouveau jardin botanique et zoologique Guilbeault au milieu des grandes propriétés et villas des riches Montréalais, sous la rue Sherbrooke actuelle, entre Bleury et Saint-Urbain. On y retrouve jardins à l'anglaise, spectacles de théâtre et de cirque, concerts, illuminations et feux d'artifice, gymnase, collection de plantes rares et d'animaux, rafraîchissements, exposition annuelle de la Société d'horticulture de Montréal, ascension de Montgolfière et j'en passe. Le dernier jardin Guilbeault s'installe de 1862 à 1869 dans le quadrilatère Saint-Laurent, Saint-Urbain, Guilbeault et Bagues, aujourd'hui rue Prince-Arthur. Les publicités font état de constructions érigées pour recevoir une ménagerie et un musée, alors que d'autres sont vouées au patinage, au cirque et au bal. On note aussi un grand pavillon capable d'accueillir 6000 personnes. Le jardin perd ainsi son caractère de jardin pittoresque pour adhérer au style Barnum, accueillant même les attractions des cirques américains de passage. Après les jardins de plaisir, la dernière version des jardins Guilbeault marque le début des parcs d'amusement, dont les attractions très populaires eurent un immense succès à Montréal, jusqu'au parc Belmont et à la Ronde. Vous êtes au 3619 Saint-Laurent, Néliga, un texte de Bernard Vallée. C'est à deux pas de la rue Saint-Laurent, qui n'était pas encore boulevard, qu'Émile Néliga va écrire toute son exceptionnelle œuvre poétique pendant les 4 ans de sa courte vie littéraire. Né en 1879 dans la maison de ses grands-parents irlandais sur la rue de la Gauchetière, il déménage en 1886 avec sa famille au 3686 de l'avenue Laval, près du Square Saint-Louis, puis à partir de 1892 au 3958 de la même avenue, près de la rue Napoléon. Émile occupe une petite chambre à l'étage où il écrit fébrilement sous la protection inquiète de sa mère et la désapprobation agressive de son père. « Ah, comme la neige a neigé! Ma vitre est un jardin de givre! Ah, comme la neige a neigé! Qu'est-ce que le spasme de vivre? Ah, la douleur que j'ai. » Au 3639-3641 de la rue Saint-Laurent habite Arthur de Bussière, peintre d'enseigne, mais aussi poète. Le bohème à l'état pur, la fantaisie, la générosité totale de l'esprit, ami de Néliga et membre comme lui d'un cercle de jeunes poètes d'avant-garde, l'École littéraire de Montréal. C'est dans la chambre d'Arthur qu'Émile se réfugie fréquemment pour fuir la colère de son père frustré de le voir s'écarter du chemin tout tracé d'employé des postes. Avant d'être enfermé à 20 ans et jusqu'à la fin de ses jours derrière les murs de l'asile, Émile dérive dans la ville avec son ami, à travers rues et ruelles, ports et tavernes, parvis d'églises et cimetières, de l'avenue Laval à la Maine. Vous êtes au 3653 Saint-Laurent, Les disparus du Baxter Block, un texte de Bernard Vallée. James Baxter est un homme d'affaires d'origine irlandaise. Établi à Montréal depuis 1877, il avait ses bureaux au 120 de la rue Saint-François-Xavier, au cœur du quartier des affaires de l'époque. Surnommé Diamond Jim, à cause de ses activités de courtage en diamants, il dirigeait également une des plus importantes banques privées du Canada, la Banque Ville-Marie. Ses activités dans le domaine de la promotion immobilière le conduisirent à embaucher le jeune architecte Théodore Daou pour dessiner ce qui allait devenir le Baxter Block. Au cœur de l'axe de la rue Saint-Laurent, en plein essor, le projet initial prévoyait 28 magasins et un théâtre de 2500 places qui ne sera jamais construit. L'édifice néo-roman, multifonctionnel à 14 sections de 3 étages, donne l'apparence d'un immeuble de prestige et représente un des premiers centres d'achat, en même temps qu'un centre de manufacture et de bureaux. Celui qui a doté la Maine d'un des plus beaux édifices commerciaux et qui était pourtant connu pour sa philanthropie fut tenu responsable, en 1900, de la disparition de 40 000 $ de sa banque. Il fut jugé et condamné à 5 ans d'emprisonnement, au terme desquels il décéda à l'âge de 66 ans. Vous êtes au 3662 Saint-Laurent. Le chemin Saint-Laurent, un texte de Pierre Anquetil. Craignant des attaques venant du côté de la terre ferme, les autorités françaises entreprennent à partir de 1717 la construction d'une fortification tout autour de la ville déjà existante, soit, en gros, le vieux Montréal actuel. L'ouvrage défensif couvre un périmètre de 3500 mètres et oppose, sur tout son long aux ennemis potentiels, un mur d'une dizaine de mètres de haut, le tout conçu par l'ingénieur Chaussegros de Léry. Cette enceinte ne contenait qu'une seule porte sur le flanc nord, plus vulnérable sur le plan militaire, appelée la Grande Porte Saint-Laurent, complétée en 1732. Elle donne accès à une petite route tracée en 1717 et portant le nom de Chemin Saint-Laurent, qui s'élance vers le nord et les hautes terres agricoles de l'île de Montréal. C'est ce petit chemin, entouré à l'époque de terres cultivées et de verdure, qui allait devenir, au bout de 3 siècles d'évolution historique, le boulevard Saint-Laurent actuel. Vous êtes au 3725 Saint-Laurent. La démarcation Est-Ouest dans la ville, un texte de Pierre Anquetil. En 1792, la Montréal est presque tout entière contenue à l'intérieur d'une fortification qui date du régime français et qui étouffe le futur développement de la ville. Ses murs seront d'ailleurs bientôt démolis pour faciliter l'essor du peuplement et l'expansion urbaine. Cette année-là, les autorités anglaises décident de porter les limites de Montréal jusqu'à 2 kilomètres plus au nord, soit jusqu'à l'actuelle rue du Lutte. Au même moment, elles décrètent que le chemin Saint-Laurent, la future Maine, deviendra la ligne de démarcation administrative entre la partie est et la partie ouest de la ville. Commence alors, dans les faubourgs au pied du Mont-Royal, un processus d'urbanisation qui ouvre la voie 100 ans plus tard au peuplement du plateau Mont-Royal et du quartier Myland. En 1996, dans un souci de préservation de ces quartiers à grande valeur patrimoniale, Parc Canada déclarait le boulevard Saint-Laurent lieu historique national. Vous êtes au 3826 Saint-Laurent, le boulevard Saint-Laurent au 20e siècle, un texte de Pierre Anquetil. En octobre 1905, les élus municipaux donnent de façon officielle à la Maine le titre de boulevard, ce qui montre bien l'importance stratégique que l'artère joue alors dans la vie montréalaise. La même année, la numérotation des adresses civiques de Montréal est revue et l'on divise les rues transversales d'est en ouest à partir du boulevard Saint-Laurent. Des tramways sillonnent le boulevard Saint-Laurent du nord au sud depuis la fin du 19e siècle et l'achalandage ne cesse de s'intensifier sur cette voie à la fois commerciale, résidentielle et chargée de signification culturelle. Au milieu des années 50, pour décongestionner la Maine, les tramways sont remplacés par des autobus et l'administration décide d'imposer la circulation à sens unique vers le nord.
Yeah!
Vous êtes au 3861 Saint-Laurent. L'antisémitisme. Un texte de Pierre Anquetil. Une importante vague migratoire juive en provenance de Russie arrive à Montréal entre 1900 et 1914. Souvent démunis et ne parlant que le yiddish, ces Juifs s'installent d'abord près du port, puis montent le long de l'axe du boulevard Saint-Laurent jusqu'au plateau Mont-Royal, où ils forment la majorité de la population entre les deux guerres. Un foisonnement de commerces, de synagogues et de lieux culturels juifs a alors lieu dans ce quartier qui attire l'attention des secteurs les plus conservateurs et les plus repliés de la société canadienne-française. Des campagnes en faveur de « l'achat chez nous » s'organisent et paraissent au cours des années 30 quelques journaux fortement hostiles à la présence juive au Québec. D'autres francophones découvrent au contraire la richesse de la contribution juive à la société québécoise, tel Yves Thériault, qui publie en 1954 un roman intitulé « Aaron », décrivant des Juifs de Montréal. Vous êtes au 3863 Saint-Laurent. Warsha, un texte de Bernard Vallée. La vocation commerciale du boulevard Saint-Laurent va s'affirmer dans la première partie du 20e siècle. On n'y trouve pas de grands magasins comme sur la rue Sainte-Catherine, mais une grande diversité de magasins de gros et de détail, reflétant les origines de la population environnante. Si beaucoup d'immigrants européens, tout particulièrement les Juifs d'Europe de l'Est, trouvèrent des emplois dans l'industrie de la confection, d'autres gagnèrent leur vie comme petits commerçants et plusieurs commencèrent comme colporteurs ou peddlers. Avec une charrette ou un traîneau l'hiver tiré par un cheval, ces marchands ambulants vendaient sur la rue ou au porte-à-porte des fruits ou des légumes, du poisson ou de la volaille. Le magasin d'alimentation Warsha a été fondé en 1935 par le juif polonais Florkiewicz, qui avait débuté son commerce comme vendeur de légumes ambulants. Comme d'autres immigrants désireux d'améliorer leur sort, il ouvrit avec son épouse un magasin sur la Maine et lui donna le nom de la capitale de son pays d'origine, Varsovie, Warsha en anglais. Une erreur de transcription restera définitivement sur l'enseigne. Warsha Bargain Fruit Market, qui fut d'abord une petite boutique de fruits et légumes, s'agrandit considérablement en un vaste magasin d'alimentation qui développa plus tard une section de vaisselle et tapis. Aujourd'hui disparu de la Maine, Warsha existe à nouveau sous la forme d'un magasin d'objets de décoration près du marché Atwater. Vous êtes au 3886 Saint-Laurent, le cœur de la vie juive entre les deux guerres, un texte de Pierre Anquetil. Le tronçon de la Maine, situé entre la rue Prince-Arthur et la rue Rachel, constituait entre les deux guerres le cœur de la vie juive à Montréal. On y retrouvait toute une série de commerces, de restaurants et de lieux de prière qui vibraient au rythme des fêtes juives, de la langue yiddish et des traditions est-européennes. Le passant peut aujourd'hui encore observer d'importantes traces de ces réalités, aujourd'hui plus atténuées depuis que les populations juives ont émigré dans la ville, vers les quartiers de Snowdon, puis plus tard vers les municipalités de Côte-Saint-Luc et Hampstead. C'est le cas notamment sur la Maine de la fabrique de monuments funéraires Burson, fondée en 1922, et du restaurant Schwartz, ouvert en 1929. Né dans le quartier en 1931, l'écrivain Mordecai Richler a décrit ce milieu avec beaucoup de bonheur et de mordant dans ses romans intitulés « The Apprenticeship of Duddy Kravitz »,« St. Urban's Horseman » et « The Street ». Vous êtes au 3899 Saint-Laurent, le cœur de la vie juive entre les deux guerres, un texte de Pierre Anquetil. Le tronçon de la Maine, situé entre la rue Prince-Arthur et la rue Rachel, constituait entre les deux guerres le cœur de la vie juive à Montréal. On y retrouvait toute une série de commerces, de restaurants et de lieux de prière qui vibraient au rythme des fêtes juives, de la langue yiddish et des traditions est-européennes. Le passant peut aujourd'hui encore observer d'importantes traces de ces réalités, aujourd'hui plus atténuées depuis que les populations juives ont émigré dans la ville, vers les quartiers de Snowdon, puis plus tard vers les municipalités de Côte-Saint-Luc et Hampstead. C'est le cas notamment sur la main de la fabrique de monuments funéraires Burson, fondée en 1922, et du restaurant Schwartz, ouvert en 1929. Né dans le quartier en 1931, l'écrivain Mordecai Richler a décrit ce milieu avec beaucoup de bonheur et de mordant dans ses romans intitulés « The Apprenticeship of Duddy Kravitz », « St. Urban's Horseman » et « The Street ». Vous êtes au 3936 Saint-Laurent, le Bain Schubert et la synagogue Beis Shlomo, un texte de Pierre Anquetil. Au coin de la Maine et de la rue Bague, le passant se trouve invité à entrer dans un bain public montréalais construit en 1931 par le conseiller municipal Joseph Schubert et qui porte son nom. Rénové en 2000, l'édifice témoigne d'une époque où plusieurs habitants du boulevard Saint-Laurent ne bénéficiaient pas de l'eau courante ni d'équipements sportifs gratuits. D'abord élu en 1924, Schubert, qui était d'origine juive roumaine, se fit pendant près de 15 ans le porte-parole à l'Hôtel de Ville des travailleurs de la confection et des syndicats actifs dans le domaine du vêtement. Partisan du socialisme et admirateur de Karl Marx, il représentait un courant idéologique au sein de la communauté juive qui se souciait vivement de la situation des masses populaires. Pour ceux qui poursuivront jusqu'à la rue Clark, s'offre au regard de cette intersection la dernière synagogue encore active dans le quartier et qui porte le nom Bet Shloim ou Maison de Salomon. Modelée au début des années 20 à partir d'un édifice déjà existant, la synagogue incarne la piété et l'attachement au judaïsme des Juifs est-européens qui s'installèrent sur ce tronçon de la Maine au tournant des années 10. Vous êtes au 3981 Saint-Laurent, l'industrie de la confection, un texte de Pierre Anquetil. Le boulevard Saint-Laurent a été pendant près de 60 ans le centre de la confection du vêtement au Canada, ce dont témoignent aujourd'hui les édifices très visibles dans le paysage urbain comme le Balfour, érigé au coin de la rue Prince-Arthur, le Cooper, près de la rue Bague, et le Weinberg, situé à l'angle de la rue du Lutte. Dans cette industrie autrefois florissante, une grande partie des propriétaires et des travailleurs étaient d'origine juive, ce qui n'empêchait pas des ouvriers de toute nationalité d'y travailler, dont au cours des années 30, un grand nombre de jeunes femmes canadiennes françaises. Ce milieu a donné naissance à des mouvements ouvriers et à des conflits sociaux d'une très grande ampleur, dont la grève des midinettes de 1937, à laquelle participèrent des figures issues de la gauche comme entre autres Léa Robach. Aujourd'hui, ces grands bâtiments, délaissés par les couturières et les tailleurs, sont devenus un lieu de refuge pour les artistes et pour les entreprises de multimédia, maintenant florissantes sur la Maine. Vous êtes au 4040 Saint-Laurent, l'avenue du Lutte et le Fletcher Field, un texte de Susan Brunson. L'édifice Berman est situé au coin nord-ouest de l'avenue du Lutte et du boulevard Saint-Laurent. C'est l'un des premiers édifices en hauteur montréalais fait de béton armé et l'un des rares aux murs extérieurs aussi réalisés en ce matériau. Construit en 1912 par l'homme d'affaires juif Solomon Weinberg et conçu pour la manufacture de vêtements, une industrie en croissance sur la Maine à l'époque, il abrite maintenant des lofts résidentiels et commerciaux. À l'origine, l'avenue du Lutte s'appelait rue Saint-Jean-Baptiste, étant donné sa proximité à la frontière entre la ville de Montréal et l'ancienne municipalité de Saint-Jean-Baptiste, annexée par Montréal en 1886. La rue délimite alors le côté sud de Fletcher Field, dont la partie est s'appelle désormais Parc Jeanne-Mance en l'honneur de la fondatrice du premier hôpital Hôtel-Dieu dans le Vieux-Montréal au 17e siècle. En effet, Fletcher Field, qui portait le nom du fermier engagé par le propriétaire William Hall, était aussi la propriété des Sœurs hospitalières de Saint-Joseph, qui inaugurent en 1859-60 leur nouvel hôpital Hôtel-Dieu au sud du parc. La propriété est acquise par la Ville de Montréal aux alentours de 1870 pour faire partie du parc du Mont-Royal. L'avenue du parc, auparavant la rue Bleury, la divise en deux en 1880. Vers la fin du 19e siècle, son extrémité sud, soit au nord de l'avenue du Lutte, faisait partie du premier terrain de golf de Montréal et sa partie nord accueillait un champ de course qui a aussi été utilisé pour des activités reliées aux expositions agricoles et industrielles sur le terrain d'exposition du Myland, soit au nord de l'avenue du Mont-Royal, jusqu'en 1897. Ce n'est pas avant les années 1910 que Fletcher Field sera remodelé en parc et depuis, il continue à être un lieu de divertissement populaire, de célébration et d'activités sportives. Vous êtes au 4062 Saint-Laurent, le Canada Hodler et la presse yiddish de Montréal. Un texte de Pierre Anctil. En 1907, un jeune immigrant polonais arrivé dans la ville depuis seulement 7 ans, Hirsch Wolowski, décide de lancer un journal quotidien de langue yiddish, le Canada Hodler, l'aigle canadien. Même si à l'époque le Canada accueillait chaque année plusieurs milliers de Juifs désireux de fuir le climat antisémite de la Russie impériale, la fondation d'un organe de presse yiddish à Montréal représentait un pari de taille sur le plan financier et communautaire. Tout naturellement, le journal ouvre ses portes sur le boulevard Saint-Laurent, près de la rue Ontario. Le Canada Hodler n'en connaît pas moins un grand succès et déménage bientôt dans un édifice construit spécialement pour lui au 4075 du boulevard Saint-Laurent, juste au nord de la rue du Lutte. Pendant plus de 50 ans, le journal de Wolowski reflète fidèlement les aspirations, les espoirs et les difficultés des Juifs yiddishophones de Montréal, au point de devenir un point de repère obligé de leur identité collective. Vous êtes au 4131 Saint-Laurent, le boulevard du vêtement, un texte de Pierre Anctil. Depuis les modestes commerces établis au début du 20e siècle jusqu'aux boutiques nouveau genre proposant les coupes les plus audacieuses, la main a joué un grand rôle dans la création, la manufacture et la diffusion du prêt-à-porter au Canada. Plus que partout ailleurs à Montréal, le boulevard Saint-Laurent a réuni en un même lieu les artisans du vêtement dans toute la diversité de fonctions et de métiers que cette industrie comporte. Autrefois très investi dans des usines produisant sur une grande échelle, la main offre plutôt aujourd'hui une vitrine fascinante de la mode contemporaine dans toute sa complexité et son éclat, ce qui n'empêche pas des commerces fondés il y a plusieurs décennies de continuer d'offrir leurs services aux passants et aux travailleurs spécialisés de la confection. Vous êtes au 4190 A Saint-Laurent, l'apport canadien-français, un texte de Pierre Anctil. L'arrivée du tramway en 1892 a ouvert l'artère à des populations vivant plus à distance de la Maine et qui purent ainsi se déplacer plus facilement pour bénéficier des emplois et des occasions d'affaires qui s'y présentaient, notamment dans le petit commerce. Bien qu'en général ne résidant pas en très grand nombre dans les quartiers immédiatement adjacents au boulevard Saint-Laurent, les Canadiens français de Montréal comptèrent tout au long du 20e siècle parmi les clientèles les plus assidues et les plus visibles sur la Maine, surtout dans les établissements qui faisaient crédit et offraient des marchandises plus à bon marché que ceux situés au centre-ville autour de la rue Sainte-Catherine. L'artère a ainsi retenti à toute époque des cris et des jurons des francophones qui s'y trouvaient un espace plus accueillant que les milieux anglo-britanniques et plus adapté à leur goût en général, sans compter que plus bas, dans la Lower Main, plusieurs artistes canadiens-français se sont illustrés de manière mémorable, comme La Bolduc, Juliette Béliveau, Olivier Guimond et Gracien Gélinas. Vous êtes au 4190B Saint-Laurent, les marchés ruraux de la Maine, un texte de Pierre Anquetil. De tout temps, la Maine a été une zone importante de contact entre le monde rural et l'urbanité, notamment en cette époque pas si lointaine où cette artère était la principale voie de communication entre le nord de l'île à vocation plus agricole et le port de Montréal. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, la municipalité a érigé plusieurs marchés sur le boulevard Saint-Laurent qui servait de porte d'entrée dans la ville pour des produits frais en provenance des campagnes environnantes. On pense entre autres au marché Saint-Laurent, autrefois situé devant le Monument national, au marché Saint-Jean-Baptiste érigé en 1908 au coin de la rue Rachel, qui aujourd'hui fait place au Parc des Amériques, et au marché Jean-Talon, qui lui existe toujours. Vous êtes au 4244 Saint-Laurent, l'immigration portugaise, un texte de Pierre Anquetil. Première grande vague migratoire de l'après-guerre, les Portugais commencèrent à arriver au Canada à partir de 1953 pour combler les besoins en main-d'œuvre agricole et industrielle du pays. Originaires pour la plupart des îles Azores, situées au milieu de l'Atlantique, ces immigrants s'installèrent dès le départ à Montréal, sur le pourtour du boulevard Saint-Laurent, où ils prirent la place de population juive en voie de se déplacer vers l'ouest de la ville. Les Portugais ne tardèrent pas au cours des années 50 et 60 à fonder des commerces, des restaurants et des organisations socioculturelles qui donnèrent une nouvelle couleur à la Maine et enrichirent son patrimoine. En 1975, en reconnaissance pour leur contribution exceptionnelle à la revitalisation et à la mise en valeur du plateau Mont-Royal, l'Ordre des architectes accordait à la communauté un prix collectif. Vous êtes au 4247 Saint-Laurent, la rue Rachel et le monument Georges-Étienne Cartier, un texte de Susan Bronson. La rue Rachel, une artère importante dotée d'une piste cyclable très utilisée, relie le parc Jeanne-Mance et le parc du Mont-Royal au parc La Fontaine et se continue à l'est jusqu'au jardin botanique et au parc Maisonneuve. La première section de la rue, à l'est du boulevard Saint-Laurent, a été construite en 1834, lorsque Jean-Marie Cadieux subdivise sa grande propriété. La rue est nommée en l'honneur de sa fille et devient rapidement la rue principale de la municipalité de Saint-Jean-Baptiste, annexée par la ville de Montréal en 1886. Au coin nord-est du boulevard Saint-Laurent se trouvait le marché Jean-Baptiste, où est aujourd'hui le Parc des Amériques. À l'est se situait l'église Saint-Jean-Baptiste, dont les origines datent des années 1870. À l'ouest, au 4170 de la rue Saint-Urbain, se trouve l'ancienne synagogue Chèvre-à-Chasse, l'un des témoins de l'importante population juive qui a habité ce quartier pendant les premières 7 décennies du 20e siècle. Depuis 1972, elle abrite l'Association portugaise du Canada. Avec l'église portugaise et le centre communautaire Santa Cruz de l'autre côté de la rue, elle forme le cœur symbolique de la communauté portugaise de Montréal, qui reste très présente dans le secteur. La rue Rachel se termine au parc Jeanne-Mance, mais son axe se prolonge à travers le parc jusqu'au monument Georges-Étienne Cartier et même au-delà, jusqu'à la croix, au sommet du Mont-Royal. Ce monument, conçu par George Hill en 1914 en hommage à l'un des pères de la Confédération, a été inauguré en 1919. Couronné par un ange, il est sans conteste l'une des œuvres d'art public les plus remarquables de la ville. Il est en restauration depuis 2005. Chaque dimanche d'été, les alentours du monument sont animés par des danses africaines rythmées par des tam-tams. Vous êtes au 4276 Saint-Laurent, les syndicalistes juifs. Un texte de Catherine Brown. Au début du 20e siècle, la majorité des ouvriers qui travaillent dans les ateliers de confection du boulevard Saint-Laurent sont des immigrants juifs dont beaucoup ont quitté leur pays d'origine pour fuir la répression politique. Politisés et organisés, ces ouvriers vont créer des syndicats qui seront parmi les plus combatifs de Montréal et qui sauront rejoindre les ouvrières canadiennes-françaises lorsque celles-ci deviendront nombreuses dans les années 30. Tout au long des années 30, le secteur du vêtement est secoué par de graves conflits de travail. L'Union internationale des ouvriers du vêtement pour dames, dont les bureaux sont situés au 3575 boulevard Saint-Laurent, fait appel à de remarquables organisatrices, dont Rose Pezzotta et Léa Robach, grâce auxquelles la grève de 1937 se termine par une éclatante victoire. D'autres militants juifs ont joué un rôle sur le plan politique. Fred Rose, électricien de son État, est élu au Parlement par la population de quartier en 1943, devenant le seul député communiste de l'histoire canadienne. Sa carrière politique prend fin de façon brutale lorsqu'il est arrêté pour espionnage en 1945. Après avoir purgé une peine de 6 ans, il se retrouve profondément isolé à sa sortie de prison et retourne à Varsovie où il meurt en 1983. Vous êtes au 4355 Saint-Laurent. Marianne Saint-Laurent, texte de Bernard Vallée. En 1834, la succession du notaire Jean-Marie Cadieux de Courville fait lotir sa terre et tracer les rues auxquelles on donne les noms de membres de la famille Cadieux. Rachel et Henriette Cadieux de Courville, filles du notaire et épouses des frères et très patriotes Chamilly et Chevalier de Lormier, Napoléon, fils de Rachel, mort en bas âge comme bien des bébés nés à cette époque, Marguerite Roy, épouse de Cadieux, Marianne Roy, sœur de Marguerite et épouse d'Hippolyte Chérier. Les rues Prince-Arthur et de Bullion ont déjà porté les noms de Cadieux et de Courville, et les avenues de l'Hôtel de Ville et Colonial, ceux de Pantaléon et d'Hippolyte, les deux fils du notaire. La rue Henriette disparaîtra à cause du développement plus rapide de Marianne. Au-delà de la barrière à péage qui marquait la limite nord de Montréal, la rue du Lutte actuelle, jusqu'en 1886, on traversait le village Saint-Jean-Baptiste, dont le cœur et les poumons étaient la place du marché, actuellement Parc des Amériques, et le Square Vallière, Parc du Portugal. Le chemin Saint-Laurent, qui traversait toute l'île de Montréal, de la vieille ville à la rivière des Prairies, voyait passer chariots de pierre taillée, charrettes de produits agricoles et diligences de voyageurs qui s'arrêtaient devant les hôtels côtoyant les maisons de ferme et d'artisans au pied des grands ormes. L'arrivée du tramway, les petits chars, bouleversa cette quiétude rurale et la main industrieuse, immigrante et festive, s'étendit vers le nord, transformant les anciens villages en quartiers grouillants de vie urbaine aux accents de l'Europe centrale juive, puis plus tard, du Portugal, de Grèce, de l'Amérique du Sud et des Antilles. Vous êtes au 4358 Saint-Laurent, les écrivains juifs sur la Maine, un texte de Pierre Anquetil. Tout au long du 20e siècle, le boulevard Saint-Laurent a attiré à lui des écrivains d'origine juive, à commencer par les auteurs de l'École littéraire yiddish de Montréal, qui avaient immigré après 1905 depuis la Pologne, la Russie, l'Ukraine et la Lituanie. des poètes comme Jacob Isaac Siegel, Sholem Stern, Ida Madze et Noah Gottlieb ont ainsi chanté en yiddish entre les deux guerres les gloires de Montréal et décrit avec beaucoup d'empathie le quartier autour de la Maine où ils habitaient tous. Ils ont été remplacés après 1945 par des auteurs juifs, cette fois nés à Montréal, et utilisant maintenant l'anglais, tels Abraham Moses Klein, Mordecai Richler et Irving Layton, qui pour la plupart se sont employés à mettre en scène les paysages montréalais du plateau Mont-Royal et ses habitants. Aujourd'hui, le parc du Mont-Royal est toujours un lieu de résidence occasionnelle pour le plus célèbre d'entre eux, Leonard Cohen, créateur de la chanson « Susan », et figure du mouvement folk international. Vous êtes au 4404 Saint-Laurent, l'épicerie de Madame Steinberg, un texte de Pierre Anctil. Forcée par les circonstances d'ouvrir une petite épicerie au 4419 du boulevard Saint-Laurent, Ida Steinberg ne se doutait guère en 1917 que son commerce familial deviendrait pendant plusieurs décennies la plus importante bannière au Québec dans le domaine alimentaire. L'héritier de la famille, Sam Steinberg, lança son entreprise sur la voie du succès en mettant au point à la fin des années 30 les premiers supermarchés modernes à Montréal. Suivirent une longue série d'innovations qui culmineraient avec la construction dans toutes les villes du Québec de centres d'achat pourvus de stationnements gratuits. Au sommet de son expansion, Steinberg employait près de 25 000 personnes au Québec, réparties dans plus de 200 épiceries et commerces de grande surface, presque tous des francophones. Malgré leurs origines juives, les épiceries Steinberg n'hésitèrent d'ailleurs pas au cours des années 70 à se conformer rapidement aux exigences de la francisation et occupèrent ainsi une place unique dans la culture populaire des Québécois. Vous êtes au 4475 Saint-Laurent, Montreal Hunt Club, un texte de Bernard Vallée. Au temps où l'avenue du Mont-Royal s'appelait le chemin du Myland, on trouvait à l'angle du chemin Saint-Laurent le premier bâtiment du célèbre Montreal Hunt Club qui réunissait les adeptes montréalais de la chasse à cour. Les chenils et écuries du club se trouvaient près de l'intersection actuelle des avenues du Mont-Royal et de Lorimier. Le chemin du Myland réunissait le sinueux chemin des carrières et le chemin Saint-Laurent, qu'empruntaient les lourds chariots chargés des pierres grises extraites sur le sommet du coteau Saint-Louis par les travailleurs qu'on appelait « pieds noirs », puis acheminés vers les chantiers des beaux édifices de la vieille ville. Le premier des nombreux champs de courses hippiques qui s'établirent dans ce que nous appelons aujourd'hui le plateau Mont-Royal fut le champ de courses du Myland. Il faisait partie des attractions du terrain de l'exposition provinciale qui, de 1878 à 1896, étalait ses pavillons entre les actuelles rues Duluth et Saint-Joseph. Un incendie détruisit ce vaste lieu où citadins et ruraux prenaient connaissance de l'avancement des savoirs et des techniques modernes de production, tout en se divertissant. Au début du 20e siècle, deux autres lieux de plaisir se disputèrent les faveurs des Montréalais à proximité immédiate du carrefour de la Maine et de l'avenue Mont-Royal. Un cinéma, le Belmont Moving Picture Theater de 1921 à 1959, aujourd'hui disparu, et l'Aréna Mont-Royal de 1920 à 1937, domicile des Canadiens de Montréal. Des artistes du monde entier s'y produisent également, comme le ténor Caruso, et en pleine effervescence politique de la Grande Crise, le vaste édifice résonna souvent des accents de l'international. Transformé en espace commercial, l'édifice sera rasé par un incendie en 2000. Thank you. Vous êtes au 5900 Saint-Laurent. La voie ferrée et l'ancienne gare du Myland, un texte de Susan Brunson. La ligne de chemin de fer qui traverse le boulevard Saint-Laurent est construite au milieu des années 1870 et fait partie de la ligne Québec-Montréal-Ottawa et Occidentale qui relie Montréal à Saint-Jérôme et au-delà. Cette ligne, prise en main par le chemin de fer canadien-pacifique au début des années 1880, contribua à la promotion de l'agriculture, de la foresterie et des loisirs dans les Laurentides. Elle divise aussi la ville de Saint-Louis en deux parties distinctes et suscite rapidement la création d'un corridor d'activités industrielles qui bénéficie ainsi d'un accès facile au transport ferroviaire. La première gare du Myland, située du côté sud du chemin de fer près de l'intersection des rues Saint-Dominique et Bernard, est construite avant 1879. Le lait des fermes situées plus au nord y arrivait et était livré à travers l'île. Une des plus grandes gares est érigée vers 1911, mais à partir des années 1950, fut utilisée à d'autres fins et a été démolie depuis. Non loin de là, à l'angle nord-est de la rue Bernard et du boulevard Saint-Laurent, se trouvait le CPR Hotel, construit dans les années 1890 et démoli dans les années 1980. Au coin nord-ouest de la même intersection, la manufacture de la compagnie Piano Pratt, incluant une salle de montre, est construite en 1909-1910. L'édifice abrite aujourd'hui le Whisky Café et des bureaux. Du côté ouest du boulevard Saint-Laurent, au sud du chemin de fer, un grand entrepôt construit en 1924 par la St. Lawrence Warehousing Company remplace un plus petit, érigé sur le même site. Au nord de la ligne, du côté est, est situé un commerce de bois de construction fondé en 1872 par Léonidas Villeneuve, maire de la ville de Saint-Louis, de 1896 à 1900. Le passage souterrain est construit en 1910, quand la population au nord de la voie ferrée était en pleine croissance, pour assurer la sécurité des piétons, des voitures et des autres véhicules. Le passage supérieur, qui relie l'avenue Van Horn au boulevard Rosemont, date des années 1960, lorsque la fluidité de la circulation primait sur la qualité de l'environnement urbain. Vous êtes au 6797 Saint-Laurent. L'immigration italienne, un texte de Susan Brunson. Les deux premières décennies du 20e siècle voient l'arrivée à Montréal d'un grand nombre d'immigrants italiens. La population d'origine italienne, qui est d'environ 2000 personnes en 1901, passe à plus de 7000 en 1911 et double encore en 1921 à près de 14 000 personnes. Au début, plusieurs des nouveaux arrivants étaient des hommes qui venaient travailler, souvent de façon saisonnière, dans les industries ferroviaires et de la construction. Rapidement, toutefois, un nombre grandissant de familles arrivent avec l'intention de rester à Montréal. Alors que le premier contingent d'immigrants italiens s'installe dans le secteur situé au sud de la rue Sainte-Catherine, entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Saint-Denis, de plus en plus de familles s'établissent entre les nouvelles maisons près de la ligne du CPR, dans la partie nord de l'ancienne ville de Saint-Louis. En 1910, les Italiens construisent leur propre église dans ce secteur, mais très vite, elle s'avère trop petite. De 1916 à 1918, l'actuelle église Notre-Dame de la Défense est érigée. Nettement plus monumentale, elle est conçue par l'artiste italien Guido Nincheri. Les liens avec la mère patrie italienne demeurent forts. La Casa d'Italia, au coin des rues Jean-Talon et La Jeunesse, est un centre social construit en 1936. À cette époque, il y avait environ 6 000 résidents d'origine italienne dans le quartier qu'on appelle aujourd'hui Petite Italie. Dans les années qui suivent la Deuxième Guerre mondiale, une autre vague d'immigration italienne comprenant des gens instruits qui veulent renforcer les organisations locales arrive à Montréal. La population italienne de la Petite Italie continue à prospérer jusque dans les années 1960, jusqu'à ce que bon nombre de familles migrent vers les nouvelles banlieues comme Saint-Léonard. Ce qui est maintenant un quartier multiculturel possède une identité italienne forte grâce à plusieurs points de repère importants, une foule de commerces offrant des produits italiens de toutes sortes, une multitude de cafés et de restaurants italiens, des parcs nommés à l'honneur des Italiens et quelques remarquables jardins entretenus par des résidents d'origine italienne. Vous êtes au 6875 Saint-Laurent, le marché Jean Talon, un texte de Susan Brunson. Le marché Jean Talon est situé quelques rues à l'est du boulevard Saint-Laurent, tout au bout de l'avenue Shamrock, où était auparavant le terrain de Cross Shamrock. Le Shamrock Lacrosse Club est fondé en 1868 par un groupe de joueurs de cross, pour la plupart d'origine irlandaise. Dans les années 1890, ils déplacent leur terrain, alors au coin de la rue Sainte-Catherine et de l'avenue Atwater, à cet emplacement, près de la limite nord de la ville de Saint-Louis et à l'extrémité de la ligne de tramway Saint-Laurent. S'inspirant des jeux amérindiens Bagatawe et Tewaaraton, la crosse était alors l'un des jeux canadiens les plus populaires et des foules de 10 000 spectateurs assistaient au match. En 1931, alors que la Grande Dépression culmine, la ville de Montréal achète le terrain et construit un chalet du côté ouest. Cet édifice, qui est aujourd'hui une boulangerie, a servi de centre de services sociaux, de terminus pour le service d'autobus entre Laval et Montréal, de bibliothèque municipale et a logé des bureaux municipaux. Le marché Jean Talon a été inauguré par le maire Camillien Aude en 1933 et a depuis permis aux agriculteurs de tout le Québec de vendre leurs fruits et légumes ainsi que d'autres produits. C'est le plus grand marché public à ciel ouvert d'Amérique du Nord et le plus multiculturel des marchés de Montréal. Son atmosphère animée et la grande variété de produits offerts attirent des résidents de toute l'île et même au-delà, incluant des chefs cuisiniers, des gourmets et des connaisseurs qui viennent y acheter des ingrédients particuliers ou des produits frais. Un stationnement souterrain et un marché couvert ont été construits en 2004-2005 pour contribuer à résoudre les problèmes de circulation et combler les besoins d'espace croissants.